problème.
Téléchargez le balado ou syntonisez Chiz 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal. Oui!
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par White du côté gauche. Oui. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
OK, attention. 1, 2, 3.
Chiz!
Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres, mais au fond, ils se foutent du ciel, c'est pour laisser d'être notre. S'ils vivent le long d'un côte, c'est pour être pris pour un phare et planer la marée haute. Quand leur vie est en retard, oh, oh. Les gens faciles, les gens qui en valent la peine, les gens qui pleurent, les gens qui pendent des ficelles, les gens rêveurs qui veulent une vie républicaine, les gens qui rient ou les gens qui parlent de.
Bienvenue à Conduite Antisportive, édition du mardi 4 mai. Gabriel Tremblay à l'animation, accompagné de Pierre-Alexandre, du même nom de famille.
Ben oui, salut yes tout sir, le monde. Hey, je me suis préparé pour l'émission. J'ai été au dépanneur en haut, puis je me suis mis du déodorant, pur sport, fait que je suis prêt. Je suis full sportif.
Notons que PA ne s'est pas lavé depuis 2017.
Exactement.
Toi, Joe, comment ça va?
Ça va, toi?
Es-tu propre?
Moi, je suis propre, toujours.
OK, parfait.
Hey, may the force be with you.
Ouais, may the force be with you.
Ben, moi, je préfère Cinco de Mayo demain. Là,
de c'est vrai que c'est un mois assez prolifique. Il y a mes poils aussi au mois de mai.
Mes
là,
poils,
donc,
là, c'est vrai.
Il y a plusieurs concepts dans ce mois-ci. Toi, Joe, ton Star Wars préféré, c'est lequel?
Hey, je suis même pas fan de Star Wars. Je lance ça comme boum. Ça, mais pour avoir de la culture. Ouais, mais non. Cultivé, mais non, aucunement.
Je pensais que t'allais dire culturé.
Aucunement, je pourrais. Je vais vous parler, je sais pas, Padawan.
Jeune, t'es un Padawan. Padawan t'es un jeune ouais. Padawan, parfait.
Toi, mon préféré, je vais être spécial, mais je vais dire Rogue One. J'adore Rogue One. Film de guerre, j'adore ça. Sinon, j'allais dire L'Empire contre-attaque, qui est un bon vieux classique. Là.
Tout à fait. Rogue One, je pense que c'est un des meilleurs dans les dernières années, là, même si c'est pas dans la continuité, dans la série de Star Wars. Là. C'est une histoire un peu inventée de toutes pièces.
Exactement. Puis la finale avec les explosions, puis l'arrivée de.
Juste un peu de Vader. Hein.
Juste un peu de Vader. Ouais. Juste assez badass, il arrive.
Je vais retourner dans le sport.
Ouais, là, t'es tanné déjà, hein, Joe. Moi, je préparais George Lucas pendant des heures. Mais bon, oui, effectivement, retournons à nos moutons, yeah. Hein, qui est le sport professionnel. Rien d'amateur. Yes. Évidemment, nous, on tripe sur le baseball comme c'est impossible d'aimer le baseball. Mais on va commencer avec PA. Tu nous as parlé un peu, là, en hors d'onde, avant l'émission, du repêchage dans la NFL.
Oui, effectivement, jeudi passé se déroulait à Cleveland le repêchage 2021 de la Ligue de football nationale.
Ouais.
Plusieurs Québécois ont été repêchés, pas au premier round, mais au moins trois. Il y a M. Saint-Just qui vient des Wolverines du Michigan, plus beau stade étudiant. Je pense qu'il y a 110 000 personnes qui rentrent là-dedans. Ouais. Ann Arbor, allez voir là-dessus, c'est vraiment magnifique.
Le Big House.
Big House, qui a été repêché par Washington. Il reste à savoir si quel nom d'équipe ils vont avoir, ça reste encore à déterminer. On accepte les... On accepte les suggestions d'idées de noms d'équipe au téléphone au 555-888-22.
Les feux Redskins, hein, qui ont duré presque 100 ans en toute connaissance de cause, mais maintenant ils réalisent que leur nom est complètement raciste.
Ben, Football Team, c'est un excellent nom. Moi.
Maintenant, c'est Washington Football Team.
Le Washington.
très générique. Hein?
J'adore ça. Pour moi, c'est idéal.
Moi aussi.
Autrement, on a eu. Comment il s'appelle déjà? On a eu le stage. Je sais pas comment ça se prononce. C'est peut-être le stage.
Ouais, effectivement.
Le stage qui est un allié rapproché qui, lui, a été signé du côté des Cardinals de l'Arizona.
Ouais.
J'ai failli dire de Saint-Louis parce que j'ai une autre mentalité d'un autre sport. Mais bref.
Tout à fait.
Un autre excellent choix. Puis finalement, il y a le troisième, je l'ai juste ici, c'est Bruno Labelle qui est avec les Cardinals. Excusez-moi. Le stage est avec Seattle, mon équipe préférée.
Les Seahawks.
Les Seahawks de Seattle. Et le Bruno Labelle a été repêché par les Cardinals de l'Arizona.
C'est un repêchage très prolifique pour les Québécois. Je pense que c'est une première là, dans l'histoire.
Trois Québécois, oui. On a eu un ou deux Québécois par les autres années, mais là, cette année, la voie est ouverte pour les Québécois dans la NFL.
C'est
mais
une bonne
augure. Une bonne augure, mais je vais surtout parler de la première ronde que j'ai écoutée en direct, qui était vraiment intéressant. Ça a commencé avec du drama avec Aaron Rodgers, quarterback des Packers de Green Bay, récipiendaire du MVP en 2019, qui a dit à plusieurs collègues, ça a été reporté par ESPN, qu'il ne veut plus jouer avec les Packers de Green Bay, qu'il reste encore 3 ans à son contrat, et on parle peut-être d'une extension de contrat de sa part, mais finalement...
Lui qui a gagné le Super Bowl, entre autres, avec les Packers.
Avec les Packers, il n'y a pas si longtemps, mais c'est une histoire vraiment de chicane avec les Packers et M. Rodgers. On parle que ça a commencé avec un de ses... comment on appelle ça? Un WR, c'est un...
Un receveur.
Wide receiver qui a été un de ses préférés, qui a été congédié en septembre dernier. Mais là, ça a continué de même. Et ils ont fait, bon, OK, on va continuer avec Aaron Rodgers. On va faire bâtir de quoi. Il est quand même rendu, il est à 37 ans. Il va finir son contrat, il va être à 41 ans. Et si on dit, les Packers, peut-être on va repêcher un quarterback, mais lui, il voulait pas dire, non, si vous repêchez un quarterback, je vais le défoncer. Et c'est vraiment ces mots justes. Il allait dire que, OK, je comprends, des Packers qui vont repêcher un jeune quarterback, mais si c'est le cas, je vais le défoncer. Et les Packers ont avancé dans leur draft l'année passée pour repêcher un quarterback qui est Jordan Love. Jordan Love.
Corps arrière... romantique et charismatique.
Mais qui est un bon espoir, mais qui va mérite d'être... il faut qu'il fasse encore un peu plus de développement. Puis justement, le mettre derrière Aaron Rodgers, c'est d'apprendre des grands, parce que...
Tout à fait.
Il y a un dicton au football qui dit « Le pire moment pour repêcher un quarterback, c'est quand t'en as besoin.
» C'est clair. C'est que le besoin est criant, et ben c'est un peu réparé au lieu de prévenir, là, t'sais.
Mais sinon, dans les drafts, ça a commencé avec les Jaguars de Jacksonville. Aucun scandale là-dedans. Ils ont repêché Trevor Lawrence, l'homme à la chevelure blonde. C'est un vrai beau étalon, comme dans les films d'Arlequin. Il est magnifique. Mais bref, il a été repêché par Jacksonville. Un trio de quart arrière qui a été repêché au premier round. On parle de Zach Wilson chez les Jets qui ont perdu ils ont échangé leur quart arrière Sam Darnold, qui est
vrai.
Un excellent jeune quart arrière, mais qui a besoin encore de faire ses preuves, qui a été échangé aux Panthers de la Caroline.
Ouais, qui avait vraiment un besoin criant à la position de quart arrière après avoir échangé Sam Newton aux Patriots, qui s'est blessé.
Cam Newton, pas Sam. Il y avait Terry Bridgewater aussi qui est remplacé. Mais qui avait lui aussi été échangé aux Broncos. Parce que ça, c'est une autre affaire qui s'en vient un peu plus tard, ça, l'affaire des Broncos. Suivi de la meilleure équipe présentement, qui la seule chose qui leur manque, c'est un corps arrière. C'est vraiment une excellente défensive, des excellents attaquants. Les 49ers de San Francisco, qui vont sûrement perdre les services de Garoppolo. Mais ils ont été repêchés le quarterback du Dakota du Nord, Trey Lance, qui est un excellent corps arrière. Suivi, selon moi, du meilleur choix. En quatrième position, c'est les Falcons qui ont repêché le Titan.
Ellie rapproché.
Carl Pitts. Un talent générationnel. Sérieusement, le gars, athlétique, puissance. Il a 19 ans, puis sérieusement, c'est déjà un homme, là.
Il vient de quelle université?
Il vient de Floride.
Ah, les Gators, c'est toujours une institut dans le monde de la NCAA au football. Et bien, même au basket, là, c'est...
Il va aider la
référence.
l'offensive d'Atlanta qui a pas vraiment besoin d'aide, mais déjà ça va les améliorer. C'est Atlanta, on se rappelle l'année passée, gagnait par des il y avait d'énormes avances dans les deux premiers quarts, dans le troisième, le quatrième, ça faisait défoncer à l'aller-retour. Des matchs qui gagnaient par au-dessus de 20 points qui ont perdu, il y en a à peu près une 5-6 de même l'année passée.
C'est toujours Matt Ryan, le carrière.
C'est toujours Matt Ryan Falcons. Et c'est la malédiction depuis le 23-3.
Ouais.
Au Super Bowl contre les Pats.
Quelle gêne, franchement. Ouais. C'était gênant. En fait, n'importe quel Super Bowl mettant en vedette Tom Brady, je veux dire, on donne pas cher de leur peau à l'adversaire.
Ah, mais
à
les Eagles, j'avais bien adoré.
Les Eagles, oui, c'est vrai, à l'époque.
Ah, mais la kryptonite, la kryptonite de Tom Brady, les Giants de New York.
C'est vrai, avec Eli Manning à l'époque.
Oh, okay, c'était magnifique. L'attraper par le casque
de David Tyree. On se rappelle de ce moment-là.
Un beau moment de télévision.
À l'époque où j'aimais le football américain.
Suite à ça, ça a été les Eagles qui ont repêché un receveur, Jamar Chase, qui est déjà affilié avec leur quarterback, qui est, si mémoire est bonne, Joe Burrow, qui était le premier choix de repêchage l'année passée.
Jeune club.
Sowell qui ont été chercher un offensive take. Un défenseur. Comment on appelle ça? Un offensive tackle?
Ah, le plaqueur offensif. Le joueur de ligne offensive.
Joueur de ligne offensif. Penny Sowell de l'Oregon, un des meilleurs défenseurs offensifs. pour la ligne d'attaque, il va très bien défendre, sérieusement. Puis avec. Aussi, eux autres sont quand même assez spéciales, les Lions, qui ont été échangés leur Matthew Stafford cette année contre Jared Goff. Aux Rams, les Rams d'ailleurs qui n'ont pas repêché puis ils repêchera pas au premier round jusqu'en 2024.
Incroyable. Toi, Joe, t'es assez tranquille hein, pendant qu'on parle de foot.
Moi, football, on me perd. Hein? Autant que je préfère faire du baseball puis du hockey, là, le football, c'est une autre histoire.
En tout cas, mais si tu veux acheter une corde à ton arc, là, va faire tes devoirs. NFL.
Je t'écoute d'une oreille.
Est-ce que t'as au moins une équipe de gens que tu pourrais dire que t'es fan de?
J'ai déjà été voir les Dolphins de Miami.
Ouais.
Mais j'ai pas pu regarder le match parce qu'il faisait trop chaud. Donc, tout le long, j'étais à l'intérieur. Puis,
Mais fan de Tampa Bay, des Rays, les Buccaneers, qui eux autres qui ont gagné le Super Bowl cette année. Ça...
Ouais, c'est sûr que.
J'en ai parlé un petit peu.
Quand on parle de ça, je clame que mon équipe, c'est Tampa Bay juste par. Parce que j'aime la ville, mais...
Quand est-ce que tu déménages à Tampa Bay?
Oui.
Pas pour tout de suite.
On est en train de attend le chèque de passion MLB.
Ouais, c'est ça.
Mais attendre de voir ce qui se passe avec Montréal aussi, puis les expos. J'ai peut-être à rester ici, pas trop loin, pour voir mon équipe.
Super, on va continuer de t'écœurer plus tard, Joe.
Je vais parler aussi d'autres choix un peu plus tard. Je vais pas te passer en chronique à peu près tous les choix de tous les joueurs, mais mes préférés présentement, il y a eu les Eagles qui ont repêché Devonta Smith et qui ont avancé leur choix, qui ont tourné dans le top 10 parce qu'eux autres avaient échangé leur choix Dolphins de Miami. Les Bears qui ont cherché un jeune quarterback et ont perdu eux autres qui ont échangé leur corps arrière cette année qui était mais bref, ils l'ont échangé aux Bills qui va maintenant jouer derrière Josh Allen, mais là ils ont été chercher Justin Field qui est selon moi le meilleur quarterback de cette QV. J'aime bien Trevor Lawrence, mais Justin Field, il est magnifique, mais le coup que tout le monde s'attendait pas, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont été chercher Mac Jones, qui tombe en 15e position. C'est une histoire de Cole Caulfield qui tombe en 15e position au Canadien. Là. Il est supposé être dans le top 5, ce gars-là.
Un vol, littéralement.
C'est un vol littéral et qui tombe dans les mains des Patriots.
Ouais.
Ça fait mal.
Mais on s'entend que... Ben là, je vais me prononcer, mais à mon humble avis, les Patriots ont perdu leur âme et le cœur de cette équipe-là lorsqu'ils ont échangé Tom Brady, là.
Ouais, mais la tête est encore là.
Oui, Bill Belichick, je l'accorde, sauf que quand
il y a encore une excellente ligne défensive, il y a encore des
il y a moins de munitions quand même.
Il y a moins de munitions, c'est vrai, avec Elderman qui a quitté, qui va probablement aller vers les Buccaneers, paraît-il.
Gronk aussi avait quitté.
Gronk a quitté.
Avec Tom Brady.
Mais le système offensif de Belichick est encore là. Il peut encore développer des jeunes joueurs. Et c'est ça l'avantage des Patriots, c'est d'aller chercher des joueurs que tu t'attendais pas qui se ramassent là-bas puis qui performent d'une manière magistrale. Et le fait d'avoir maintenant un jeune quarterback avec plein de potentiel, c'est le style de quarterback que Belichick aime bien avoir là.
Ouais,
il va avoir du fun avec. Puis ça va avoir Cam Newton qui va apprendre à peu près les rudiments de quarterback. Il va dire ça, c'est la pression qu'il faut que tu ailles à peu près avec les Patriots. Moi, j'ai vécu ça. Puis après, selon moi, cette année, il va avoir il va partir quelques matchs, mais selon moi, c'est d'ici deux ans, ça va faire des flamèches, ce nouveau duo-là. Suite à ça, dans mes bons. un de mes noms préférés, les Colts ont cherché Quilipay.
Quilipay.
Quilipay. Eh non, ça n'est pas un YouTuber le plus populaire. Non, c'est un offensive tackle.
Plaqueur offensif.
Plaqueur offensif. Ouais. Mais dans les nouvelles variétés, les Edge.
Ouais.
Qui, je sais pas comment on peut traduire ça.
Ben c'est dans l'espace. Ben comment on peut dire
c'est que
l'embouchure, l'espace. Comment dire
Le bloqueur de chemin.
Oui. Ben c'est pour les routes et les tracés. Là. Donc oui. C'est ça. Un bloqueur. Bloqueur
un offensif. Bloqueur offensif. Puis dans les pires choix, je dirais Najee Harris, un runner back. Un coureur arrière.
Demi-offensif.
Demi-offensif, c'est ouais. Vrai. Chez les Steelers, qui eux autres n'ont pas de jeu de course cette année, mais bref.
C'est le fun, j'ai l'impression d'être le traducteur de service, genre Google Translate de l'émission. Hein.
Tellement.
Traduction.
Mais non, mais moi, les positions football, selon moi, ouais. J'ai toujours de la tige.
Ben, je comprends.
Carrière, c'est quand même quelque chose d'assez facile. C'est juste que là, seulement cornerback, demi offensif.
Puis même, même dans notre jeunesse, on nous enseigne à avoir un lexique, un vocabulaire anglophone pour le football américain, même le football canadien. Là, moi, j'ai joué au football au secondaire, puis même les termes, c'est tout le temps en anglais. Nos coachs nous apprennent les jeux et les tracés en anglais. Puis les jeux vidéo aussi, comme Madden, ouais. C'est seulement en anglais. Donc, j'avoue que les termes, à part Pierre Vercheval à RDS, il n'y a pas grand monde au Québec qui nous les dit.
C'est vrai, puis définitivement, surtout si la porte s'ouvre pour le Québec, peut-être d'avoir des noms plus français, des noms quand même plus accessibles aussi.
Ouais,
un demi-coin de sûreté, c'est long.
Ouais, c'est vrai que c'est un cornerback, demi-coin de sûreté, c'est quand même compliqué.
Ouais. Ouais. Mais bref, c'est ça qui était pour le premier round. Oui, yes premier sir. Tour.
Premier tour de la...
Du repêchage de la Ligue nationale de football américaine 2021.
Très chouette. Les dates, là, les prochaines dates importantes à suivre au calendrier de la NFL?
Il y a le début de la saison qui va commencer habituellement au mois d'août.
Okay, c'est quand même assez long. La saison complète. Là,
la saison complète commence là. Probablement les camps d'entraînement vont commencent habituellement au début juillet. Mais bref, ça commence relativement tard, le football américain. Là, on est vraiment dans le début. On a dépassé les contrats dans les agents libres.
Les agents libres, c'est passé, ça, c'était en février, right?
C'était en février, exactement. Il y a eu quelques contrats qui sont donnés ici et là, dont J.J. Watt, qui est tombé dans les mains des Cardinals de l'Arizona, qui, ça va faire mal dans
vraiment.
La
section. Oui. Les Texans viennent de perdre
tout. Deshaun Watson, qui est présentement sous enquête judiciaire, il vient de perdre J.J. Watt. Ils ont même pas repêché dans ce tour-là, au premier tour. Ils ont perdu tous leurs choix. Malheureusement, c'est...
Il y avait déjà un club assez médiocre. Donc,
ouais. Ben, il y avait un bon club. Ils ont quand même fait les séries l'année passée. Vrai, ils ont été assez serrés contre les Saints. Il y avait un bon club. C'est l'année passée que ça s'est complètement vidé, complètement. Mm-hmm. Puis là, cette année, ça va être la destruction totale. S'ils gagnent une victoire, on va être heureux pour eux.
Oui, j'avoue. Hey, les garçons, la semaine dernière, on se rappelle que notre émission avait été écourtée en raison des séries dans la Ligue junior majeure du Québec. Eh bien, la deuxième ronde a été annoncée cette année. Ben là, c'est cette semaine, en fait, pour la deuxième ronde des séries. Et ben nos remparts de Québec ont accédé justement à cette deuxième ronde en faisant le balayage.
Yes.
Est-ce que c'est mandatoire de prendre pour les remparts? Parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Saguenayens. Fait que OK, je suis obligé de prendre pour les remparts.
Non, ça va.
OK. Mangez la main, maudit remparts, perdez.
Par contre, de couper ton micro.
Okay. Je parle même pas français pour commencer. Les Canadiens de Montréal, là, à part les remparts, là, c'est quoi qui est intéressant dans le hockey, là?
À part les remparts, qu'est-ce qui est intéressant dans le hockey? Mais non, en fait, les remparts, eux, qui commencent leur deuxième ronde, effectivement, contre les Saguenay de Chicoutimi, ce vendredi à compter de 19h30 sur nos zones.
Go, Sag, go.
Et c'est en direct de Chicoutimi.
Saint George Isna.
Yes, sir.
Mon équipe.
The place to be.
Go, Sag, go.
Yeah. Hey, on continue.
Je viens de perdre tout mon argent, c'est ça?
Hein? Exactement. Je viens de couper ta paye en deux. Mais non, c'est pas grave. Hey, les garçons, on parle de hockey parce que, ben, Crime, c'est quand même un peu excitant, outre le hockey junior qui bat son plein. D'ailleurs, mention honorable à Thomas Sigouin qui, lors du troisième match, a marqué un but en étant gardien dans un filet désert. Fait d'armes assez rare et unique dans le monde du hockey.
Ouais,
donc, bravo Thomas Sigouin. sinon, ben, au sport professionnel, du côté de la Ligue nationale de hockey, ben, du côté de Montréal, on a un nouveau sauveur. On a un nouveau messie.
Un nouveau Padawan,
entre autres. Mais là, c'est un futur Jedi. Là. On peut déjà le dire.
Ouais, c'est le cas de le dire.
Cole Caulfield qui marque son deuxième but en prolongation déjà pour donner la victoire aux Canadiens face aux Leafs, nos rivaux de toujours. Franchement, quel tir.
Ben, c'est une première aussi avec le Canadien, là, une recrue qui score deux buts pour commencer la saison. C'est fou, ça a remis beaucoup d'énergie, je pense. Là, j'écoutais beaucoup de les points de presse après et tout. Puis dans l'équipe, tu vois, là, c'est l'effervescence, elle est là. Philippe Dano qui a dit il est peut-être petit, mais il aime les grands moments.
Ouais.
J'ai bien aimé ça. Il a dit il y a un petit shot aussi.
Oui, c'est ça. Ben, déjà, lui, il a pas peur de se comparer au meilleur. Là. Mm. Justement, plus tôt ce matin, je pense qu'il a comparé son tir justement en prolongation à un tir de Vladimir Tarasenko. Donc,
ce qui n'est pas rien.
On se prend pas pour un 7-up.
Philippe
flat,
Dano qui a joué un super bon match aussi. Oui. Là, c'est lui qui a égalisé en fin de match.
Tu parles de Philippe Dano. D'ailleurs, ce sera son coéquipier sur le premier trio. Cole Caulfield avec Josh Anderson à l'aile droite. Donc déjà, notre petit Cole Caulfield est promu sur le premier trio
mais
du
là,
Canadien.
L'ancien sauveur du Canadien là, qui avait scoré 3 buts dans son premier match, là, Ryan Poling, là, il est rendu quoi?
Oui, lui, dans la Ligue américaine, il est blessé en plus en ce moment.
Ben, c'est ça qui ça va pas. Là, Cole Caulfield, c'est...
Ouais, ben écoute, je pense que le talent lui sort par les oreilles. Là. C'est indéniable, là, le gars a un tir des ligues majeures.
C'est vrai qu'il a un beau tir, il patine.
Contrairement à Poling, il a les deux pieds dans la même bottine.
Mais ça avait mis la barre haute aussi, ouais. On va se le dire.
Puis je veux dire, c'était un mirage. Là. Il nous a offert une espèce de rêve, Ryan Poehling, à la fin de la saison où les matchs valaient absolument rien. L'enjeu était moindre aussi qu'en ce moment, alors que le Canadien se bat pour une place en série, ben Caulfield répond. Et des buts en prolongation, tu sais, des buts vainqueurs. Les buts à la Justin Williams en série qui nous font gagner une Coupe Stanley.
Mais le Canadien est en égalité, en fait, avec Winnipeg au troisième rang en ce moment. C'est là qu'on voit que les points en prolongation là, au début de la saison auraient pu vraiment changer la donne aujourd'hui. Là.
Mais présentement, ils sont à 99,9% des chances de faire les séries. Il ne manque qu'une victoire, selon moi, et c'est fait.
Oui, on attend une défaite des Canucks, en fait. Ouais. C'est ça l'enjeu.
Tic-tac.
D'ailleurs, ça m'amène, là, tu parlais de la position au classement dans la division Nord, Joe. Ça m'amène à vous poser une question. En tant que fan du Canadien, est-ce que vous préférez affronter les Leafs, donc nos rivaux de toujours, à Toronto, ou les Oilers d'Edmonton?
Ah, les Leafs, sans hésitation.
Ouais.
Ça donnerait une super bonne série. Comme avec le match d'hier, les Oilers, je redoute un peu trop le fameux monstre à deux têtes là, dont
Drysdale, McDavid,
ouais, dont on avait parlé. Et les Oilers pourraient être surprenants aussi. C'est à voir, mais les Leafs, c'est sûr que ça va être un plus gros défi. Mais côté spectacle, là, je crois qu'on aurait une méchante belle série.
Ouais, on dirait que j'aurais tendance à comment dire. Préférer un duel contre les Oilers, considérant que défensivement, le Canadien a toujours été assez hermétique face à un Connor McDavid. Donc, on a appris, je pense, à le neutraliser, du moins à court terme. Et je pense que les.
C'est ça jusqu'à quand?
C'est ça jusqu'à question. Quand, en fait. Là, mais jusqu'à dans une série, tout peut basculer assez vite. Là. Et ben j'imagine que quand Price va revenir au jeu, il pourra voler quelques matchs. On le souhaite. Mais je pense que Winnipeg pourrait maganer, surtout que c'est un club assez physique et bien bâti, pourrait maganer. Les Leafs, quoi même peut-être les battre pour peut-être donner une chance davantage aux Canadiens en deuxième ronde. Là, on se croise les doigts puis on touche du bois, mais tu sais, on s'entend.
Moi, attends, je pense pas que la question m'était orientée vers moi parce que t'as dit en tant que fan du Canadien.
Mais non, mais tu mets un chapeau de fan du Canadien.
OK. Ben, personnellement, on n'a pas affronté Toronto en série depuis 1979.
Ça serait cool.
C'est Québec, Montréal, Toronto, c'est une rivalité naturelle.
Ouais.
Ça nous manque. Il y a quelque chose qui doit être là-dedans. Et personnellement, Toronto, c'est contre Boston, contre Columbus, c'est une équipe qui est faite pour être éliminée en première ronde. Ils sont nés pour ça.
Mmh. Ouais.
À chaque fois, tu dis non, ils ne seront pas à voir cette année. Ils vont aller en septième match puis ils vont gagner. Non. Et selon moi, c'est pas le Canadien qui va les aider cette année.
C'est comme les jeunes Sharks de San Jose, on dirait. Mais j'avoue, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu spécial avec les Leafs cette année. Je pense que Austin Matthews est sur une autre planète. Là. Je pense qu'il est maintenant rendu à 40 buts ou presque déjà.
C'est vrai, mais c'est la défensive, moi, que je...
C'est un gros point d'interrogation.
C'est un gros point d'interrogation. Le gardien de but aussi.
Surtout, oui, effectivement.
J'aurais un peu plus peur des Oilers, qui ont maintenant le temps un peu plus de gagnants. Connor a déjà gagné plus que...
Ouais, championnat junior aussi. Donc,
exact.
C'est un habitué des grands rendez-vous.
La mentalité de gagnant des Oilers, selon moi, me fait plus peur que la capacité offensive des Maple Leafs de Toronto.
Très, très chouette. J'avoue.
Mais mon choix principal, ça serait les Penguins de Pittsburgh. Ça serait vraiment le fun. On les élimine. Ça fait 3 ans de suite quasiment qu'on les élimine.
J'avoue. Toi, Joe, ton choix pour les grands honneurs, mettons, la finale de la Coupe Stanley, ça va ressembler à quoi, d'après toi?
La finale? Mais je regardais le classement général, justement, un peu plus tôt aujourd'hui, puis... Surprenamment, les Hurricanes, plus ou moins, là, les Hurricanes de la Caroline sont premiers. Ouais. Je les vois peut-être pas. Je les vois loin quand même, là, enfin, mais je les vois pas. Je vais y aller avec les Capitals.
OK.
Je trouve qu'ils se sont. Avec.
C'est un choix conservateur quand même.
Ouais, avec Manta, je trouve qu'ils se sont bien. Se sont bien armés pour les séries. Puis,
Les Washington est dans l'Est ou dans la Centrale?
Avec c'est dans l'Est.
Ouais, dans l'Est. L'Est,
hein. Le L'Est est complet en ce moment. Les Rangers ont été éliminés hier aussi.
C'est vrai.
Donc, toutes les équipes, tout est booké dans ce côté-là.
Les Flyers aussi sont éliminés.
Mais personnellement, moi, je crois qu'il y a ma finale. On va la voir en demi-finale. Moi, deux équipes que je vois le plus, c'est Tampa Bay et l'Avalanche Colorado.
L'Avalanche, certainement.
Effectivement. Ouais. Mais il va s'affronter en demi-finale. Donc, pour moi, c'est une des deux qui va se ramasser là. Dans l'Est, probablement. Si je pense que Toronto va se éliminer par le Canadien, donc je vois soit les. Ce serait une finale Oilers versus. Oilers versus Pittsburgh.
J'aime ça. Puis je pense que c'est une des dernières années, une dernière fenêtre pour les vieillards de Pittsburgh, là, ouais. De s'illustrer. Là. T'sais, Malkin est vieillissant, Crosby pareil. Je pense que c'est peut-être la dernière année justement pour les
Pingouins. Edmonton, Québec. Avalanche contre les Oilers.
Hey, j'aime ça. Audacieux. Hey, les garçons, je vous lance une chanson, une pièce de natation à Ben de Québec avec l'aube. Et au retour, ben, je fais un petit survol du foot.
Du foot?
Vous écoutez Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3.
Guide me to the water's edge and dive. Myself around the point you made. Shed my skin. Oh, one more time. It sounds like spring. Like bad advice. When the creases in a tired eye. Begin to show. Wrong by wrong, fire ladder out a back window.
business. I'll miss you. I'll miss.
À l'avant-garde!
Chérie J'arrive débarque dans vos oreilles tous les jours de 16h à 17h30 pour vous faire découvrir la scène culturelle et artistique de Québec.
Collabo, chronique, entrevue, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Vous voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie J'arrive par Gabriel Morissette
et Félix Duchesne en semaine dès 16h à chez 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
The following program is disturbing.
Cash Crowd.
Mardi 20h, Chiz 94.3.
D'écoute!
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Et avant le bloc publicitaire, vous écoutiez Natation avec la pièce L'Aube, la natation, qui m'amène à vous parler de mon portrait d'athlète féminin. Aujourd'hui, à l'émission, je parle de Jennifer Abel.
La fille de Richard Abel.
Ouais, exactement.
And the Sweet People.
Ta gueule, P.A. Mais oui, Alain Morceau de Sweet People, quel ben médiocre. Bon, pas grave. Jennifer Abel. Hein? Jennifer Abel, vous la connaissez, les garçons?
Ben oui.
Oui, yes. Jennifer Abel qui représente un très bel espoir olympique pour les Jeux de Tokyo cet été. Jennifer Abel qui est née le 23 août 91 à Montréal. Donc, elle souffle 29 bougies sur son gâteau cette année. Elle vient d'obtenir une 5e place à la Coupe du Monde au Japon avant hier. Donc, au tremplin de 3 mètres cette fois-là. Et bien, évidemment, avec cette 5e place à la Coupe du Monde, ça lui place, en fait, ça lui prépare pour cet été, alors que c'est une épreuve préliminaire, si on veut, aux Jeux Olympiques, qui est vraiment, comment dire, time to shine. l'endroit privilégié pour les feux et tous les spotlights. Donc voilà, Jennifer Abel qui un palmarès assez impressionnant, disons-le. Donc, une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Beijing en 2011, on se rappelle. Elle a aussi accumulé... Comment tu dis?
Londres.
Non, en 2011, c'était...
2012, c'est Londres. Beijing, c'est 2016.
Non, les Jeux d'été. Donc,
c'est
2000...
ça, Londres?
Londres en 2011. Non,
en c'est 2012, c'est...
2012.
C'est... 2012, c'est Londres.
Pas. Je me trompe, en tout cas. Mais au jeu de Beijing, en tout cas, elle a une médaille de bronze. Au championnat du monde aussi, elle a 4 médailles de bronze à son palmarès et 6 d'argent. Au jeu panaméricain, c'est 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Sinon, au jeu du Commonwealth aussi, elle a remporté l'or à 4 reprises, alors qu'elle a remporté l'argent à 3 reprises. Donc, assez prolifique, notre Jennifer Abel. On suit sa carrière et surtout son développement pour cet été aux Jeux olympiques de Tokyo. Bon. Yes sir.
Et à partir de là, on va vers quoi, mon cher Gab?
Le foot, le soccer.
Le vrai, là.
Le ballon rond. Le sport préféré de tout le monde sur la Terre, sauf vous autres. Juste moi qui aime ça ici, autour de la table.
C'est pas vrai.
Mais oui, un peu quand même. Mais
c'est quand j'ai envie de dormir le soir, ça m'aide.
Une bonne game de ballon, hein, c'est ouais. Ça que je... Mais pour parler de notre club, notre seul et unique club, on est pogné avec, à Montréal, le CF Montréal. Autrement dit, l'Impact.
Le Canadien français de Montréal.
Exact, le Canadien français de Montréal. Le CF Montréal, l'Impact, qui a joué un des matchs les plus plates de la semaine en MLS. Un verdict nul 2-0-0. Un match nul qui l'a soutiré au Columbus Crew, le champion en titre en MLS. Quand même, faut dire que c'est un fait d'armes assez impressionnant. Personne s'attendait à un match nul de l'Impact face au Crew de Columbus, surtout pas en fin de semaine. Donc, ce qui est le plus étonnant dans ce match-là contre les champions en titre, c'est les 20 tirs dirigés vers la cage de Eloy Room, le gardien du Crew. Donc, 20 tirs au soccer, c'est énorme, les gars.
Ouais,
énorme.
Est-ce qu'il était de qualité ou c'est vraiment juste
C'est même pas des tirs cadrés. Le 20 tirs dirigés vers la cage. C'est beaucoup,
ouais.
Mais c'est 20 tirs de qualité assez médiocre.
OK.
Donc voilà. Mais quand même, tu sais, 20 tirs, normalement, t'en marques quelques-uns. Là. Au ballon, c'est assez. Je veux dire, On parle comme par exemple au hockey, là, 30 tirs c'est beaucoup, là, mais 20 tirs au soccer sur un match de 90 minutes, c'est énorme, c'est énorme. Mais bref, on n'a pas pu déjouer le gardien.
Surtout quand on regarde le comparatif avec l'autre équipe.
Moi, je pense qu'ils ont 5 tirs.
Moi, même 3, je crois. C'est...
Ouais, 3 tirs cadrés, 5 tirs dirigés, c'est fou raide.
Ouais, c'est pas la même chose. J'entends beaucoup depuis le début l'impact, ben, l'impact de CF Montréal, là, qu'on est surpris de leur performance tout le temps.
Tout à fait.
C'est quoi qui se passe?
Ben écoute, de faire match nul contre le meilleur club de la ligue, ben, en tout cas, un des clubs qui a le plus de profondeur, c'est assez étonnant. Surtout que l'Impact a un club sur papier qui est très faible et c'est un club en reconstruction, comme je le dis à peu près à chaque semaine où je parle de foot. Par contre, tu sais, oui, après trois matchs, on a un dossier d'une victoire 2-0, ce qui est somme toute assez bon, respectable dans les circonstances, même plus qu'acceptable. Là. Je pense qu'on si on finit la saison avec une fiche semblable, là, peut-être 10-15 victoires, 10 matchs nuls, 5-10 défaites, c'est plus qu'espéré pour l'Impact et le CF Montréal. Ça dépend à quel point vous aimez la reconstruction et le changement identitaire. Mais oui... J'ai l'impression que ça va flancher éventuellement. Là, on ne faut pas s'attendre à des performances comme ça chaque semaine. Mais bon, pour l'instant, en tant que fan de l'Impact ou du CF Montréal, on savoure. Et le prochain match, c'est ce samedi 8 mai contre les Whitecaps de Vancouver, à Vancouver. Donc même si le match, statistiquement parlant, est prenable, considérant que Vancouver est peut-être le seul club qui est encore plus en reconstruction que Montréal, je prévois quand même une première défaite. Donc voilà, c'est dit, vous l'aurez su en premier ici. C'est vraiment jamais vraiment simple, en fait, pour le bleu-blanc-noir sur la côte ouest. Et encore moins à Vancouver, même si c'est un club qui est poche depuis plusieurs années. Que ce soit contre Seattle ou Vancouver, même Portland, on a vraiment beaucoup de misère. Peut-être le décalage aussi, mais en général, on a de la misère contre nos rivaux canadiens de Vancouver. La rencontre est à 15h, heure de l'Est, donc samedi après-midi. Mettez ça à vos agendas. Checkez ça dans vos TV, sur le web ou de façon complètement illégale. Yes. 15h, faire autre chose. PA, c'est noté.
Oui,
c'est noté. Tu travailles 15h samedi.
Ouais.
Ouais, sûrement.
Ben, j'ai une bonne excuse pour pas l'écouter.
Yes. Hey, je me transporte sous le vieux continent, donc du côté de l'Europe, avec notre ami, ben pas vraiment mon ami, mais José Mourinho, entraîneur portugais. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, là, José Mourinho, qui a été limogé de son titre d'entraîneur avec le Tottenham FC en Angleterre. Et bien maintenant, il s'est trouvé de nouveau boulot, Mourinho, hein, cet entraîneur passif-agressif, tristement célèbre, et vainqueur de la Ligue des Champions quand même, faut lui donner... C'est fait d'armes en 2004 avec le FC Porto et avec l'Inter Milan en 2010. Donc, il est du côté de l'Italie maintenant. Il revient du côté de l'Italie avec l'AS Roma. Il vient de signer un contrat. Un club qui, à son image, bat de l'aile. Donc, José Mourinho qui se trouve du boulot dans un club qui est actuellement 7e au classement de la Serie A italienne. Donc, je lui souhaite de se péter à la face solide. C'est tout ce que j'ai à dire à José Mourinho, qui est... reconnu pour être un entraîneur très dur, difficile de clouer des joueurs qu'il ne mérite pas au banc, avec surtout ses vedettes. Hein, c'est vraiment, comme je le dis à chaque semaine, un John Tortorella du football européen. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fait.
Je viens de me rendre compte que je suis capable de nommer deux clubs italiens.
Lesquels?
L'Inter Milan et l'AC Milan.
Yes, sir, les deux clubs de Milan. La Juventus de Turin aussi.
La Juventus, ouais, la Juventus, ça me dit de quoi?
La AS Roma, tu connais aussi.
La AS Roma. Ouais, maintenant, je connais la AS Roma.
Le Bologne FC, le club sœur de l'Impact.
Non.
Pas du tout. Ok, t'es poche.
Non, je le sais.
Napoli? Non.
Moi, tu me dirais le FC Da Giovanni. C'est un peu raciste ce que je viens de dire. Je m'excuse.
Colin PA. Sors. Quitte le studio.
Ok.
Va réfléchir dans ton coin. Parfait. Il est fait pour vrai. Excellent. Hey, les gars.
Oui.
On parle de notre chouchou, de notre sport de prédilection. Le seul sport qu'on aime, vraiment, les trois ensemble.
Oui.
La seule raison qui nous unit ici ensemble.
La pétanque.
Oui. La pétanque. Joe est même pas encore initié à la pétanque.
Oh, bientôt, dans trois semaines.
Dans deux, trois semaines. Mais oui, le baseball.
Yes, notre sport. C'est rare, c'est ça qu'il y a trois personnes qui capotent sur ce sport-là.
Je pense que 75% des gens qui tirent sur le baseball sont dans cette pièce présentement.
Ouais, c'est ça. Okay. I never get back to the
team. I move for the room team. Voilà. Ben, parfait. C'était mon take me out.
Mais là, le road team aujourd'hui, c'est les Angels de Los Angeles.
Yes.
Je vais vous parler, entre autres, de Shohei Ohtani.
Shohei Ohtani, la sensation, la légende vivante.
La légende, Showtime. Et d'abord, avec le match de hier, en fait, on a commencé, on a joué contre mon équipe, les Rays de Tampa Bay. Un match un peu tardif, vers 10h le soir.
Tardif.
Et ça a été un match un peu...
Nordique.
Un peu hors du commun.
Ouais.
Avec Glasnow aussi qui lançait du côté de Tampa Bay.
Ouais.
Otani a connu un double et un coup de circuit, ce qui est pas mauvais. Et également, quand je parle de... Je vais vous en parler là, de toutes les facettes de son jeu. Sa rapidité, quand il a tourné un simple en double,
ouais,
c'est... qui d'autre fait ça et qui tente de faire ça, eh bien, ben, Otani le fait. Et sinon, du côté de Glasnow aussi, une bonne rencontre encore. Il a eu la victoire à 8 retraits sur les prises. Et pour Shohei Otani, c'est le premier joueur depuis Babe Ruth à commencer une partie comme lanceur, en plus de mener la ligue dans les coups de circuit comme frappeur. C'est vraiment pas rien. 9 pour être précis. Aujourd'hui, je vais vous en parler parce qu'il s'établit vraiment comme la prochaine légende du baseball, là, du moins pour l'instant, si ses blessures lui en privent pas.
Non, c'est ça, exact.
Il me fascine juste complètement. Il peut tout faire. D'abord, il lance plus fort que Chris Sale. Il peut frapper plus fort que Chris Davis. Puis il peut courir plus vite que Mookie Betts.
Et il se blesse plus facilement que Chris Sale aussi.
Ben, Chris Sale est blessé en ce moment, donc ben, on va pas vraiment parler.
C'est ça ma question que j'ai avec Shohei Ohtani. Attends, que c'est un excellent lanceur, c'est vrai, mais sa puissance au bâton est plus importante que sa présence
au monticule.
Au monticule,
même si les Angels en ont besoin.
Ouais, les Angels ont toujours besoin de la présence au monticule. C'est une des pires rotations, selon moi, de la ligue. Mais selon moi, la nouvelle position pour Shohei Ohtani, j'aimerais vraiment le voir comme voltigeur au champ gauche. Ça serait sa place, son bras, son lanceur. Je verrais vraiment un gars qui se rend au troisième, qui essaie de je vais tenter le bras d'Otani, puis lui il lance une belle balle
un peu comme Babe Ruth justement, ouais, quand il s'est rendu avec les Yankees,
exactement. Mais moi j'aimerais voir son bras plus les voir contourner les gars qui sont au troisième que de le voir lancer au marbre.
Mais ouais, la puissance c'est une de ses forces,
effectivement. C'est déplorable, mais je crois que Shohei Ohtani devra, pour sa carrière et sa longévité, choisir, ouais, de frapper ou de simplement lancer, parce qu'il peut pas faire les deux, considérant qu'il est en porcelaine littéralement. Là, il se blesse à chaque fois qu'il contourne
ben,
un
c'est
but.
C'est mince, c'est vraiment à chaque fois.
Ben,
quoi que le dernier match, c'était pas vraiment de sa faute, c'est vraiment une glissade qui est vraiment bâtard sur un mauvais jeu.
Ouais, j'avoue, mais on dirait que c'est une malchance qui lui court puis qu'il pourchasse à chaque match.
Ouais, il fait juste multiplier les chances de se blesser.
Ben, c'est ça, en faisant les deux rôles. Là. Donc, ben, je lui souhaite en fait qu'il choisisse un camp, crime. Là.
Ouais, on va voir, mais en tout cas, du moins, le phénomène de frapper
pour l'instant, ouais,
et lancer, c'est lui qui a ramené ça, parce que c'était pas nouveau non plus. D'abord, ben, Ohtani, 6 pieds 4, lanceur droitier. Vraiment, il est né à Oshii au Japon avec des parents d'athlètes, mais pas au niveau professionnel non plus. Ohtani, c'est un obsédé du baseball, ouais, complètement depuis.
C'est un cyborg aussi.
Le Japon est obsédé. Une bonne grande partie de la population japonaise est obsédée vers le baseball là-bas. C'est un culte. Ouais. Les matchs à voir de la Ligue japonaise,
ouais, la Ligue,
c'est magnifique à voir. Puis moi, sérieusement, un de mes joueurs. Maintenant, j'ai décidé que j'avais un joueur préféré depuis que j'écoute le baseball, et c'est Suzuki.
Ichiro
Suzuki. Ouais. Sérieusement, c'est des gars qui ont de la discipline, qui prennent le baseball vraiment comme une religion, mais vraiment de l'assidu. Il faut qu'ils soient vraiment performants de chaque niveau. Puis je vois un peu ça dans Shohei Ohtani aussi. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Je retrouve un peu moins chez Kikuchi ou chez, ouais, Tsutsugo.
Ichiro Suzuki était réglé comme une horloge. Ouais. C'était un hit à chaque match, sans exception.
Ah, ça fait de suivre loin, ouais, les milestones à chaque match.
Il faudrait que je t'envoie une vidéo sur le fait que si Suzuki avait décidé de frapper des coups de circuit, sa moyenne, il a préféré avoir une bonne moyenne au bâton, mais s'il pouvait frapper des circuits, s'il voulait frapper des circuits, il aurait été un des meilleurs là-dedans.
Ah, sans aucun doute.
Oui, parce que le taux de ballon qu'il frapperait serait beaucoup plus élevé, oui, et le risque de...
Il préférait avoir la régularité que le coup de circuit magistral.
Ohtani, c'est depuis très jeune aussi, là, depuis à l'âge de 18 ans, il avait lancé une balle rapide à 160 km/h, ce qu'on n'avait jamais vraiment vu lors de ses études et tout. Là, il s'est amené en Amérique en 2012, là, il y avait des équipes qui étaient intéressantes à lui, entre autres les Rangers, les Yankees, Dodgers, et il a signé avec les Angels donc en 2017, puis ouais, il a percé l'alignement l'année d'après avec comme DH durant le match d'ouverture. Et malheureusement, le 7 juin 2018, ben, il se blesse. Ouais.
Dans sa semaine mémorable.
Ouais, il doit avoir le Tommy John Surgery, donc la grosse opération qui demande au moins un an de rétablissement. Et il a été frappé, ça, par Joe Smith. On a rarement vu Ohtani aussi aussi fâché puis se contenir, mais on voit là, les conséquences que ça a en ce moment. Puis il est de retour donc comme frappeur le 7 mai 2019 comme DH aussi, et le 26 juillet comme lanceur. Puis finalement, on signe avec les Angels un contrat de 2 ans pour 8,5 millions.
Quelle erreur.
Tu penses?
Ben non, mais qui veut signer avec les Angels? Mais en fait, on s'entend là, comme on, avec
ben,
les...
quand t'es un frappeur, oui.
Oui, ben, oui puis non. Tu sais, je veux dire, c'est un club qui est tellement décevant d'année en année.
Oui, mais c'est le problème de lanceurs. Puis présentement, même les coachs des lanceurs sont problématiques. Et dans, ton préposé, quand ton préposé au vestiaire se fait arrêter parce qu'il donnait des substances étrangères aux personnes de l'autre équipe, c'est vraiment une culture générale des lanceurs chez les Angels qui est à refaire complètement.
Oui, puis on donne des contrats faramineux à des Anthony Rendon, par exemple, qui nous oblige à donner des salaires moindres à des lanceurs, donc notre rotation est logiquement plus faible. T'sais.
Qui s'est reblessé hier aussi en fin de match. Ouais.
Non, pire gestion de club, les Angels. Puis on s'entend, là, moi j'aurais aimé ça voir Otani et Mike Trout dans des clubs complètement différents, parce que c'est des talents générationnels qu'on gaspille là, en ce moment.
C'est vrai, mais il y a des talents générationnels. Il y en a toujours. Je pense avec Ken Griffey Jr. qu'on a scrappé pendant des années. Il y avait des excellents clubs à un moment donné. Ah non, j'avoue que c'est un peu moins intense.
Ben non, tu sais, il y a quand même eu. Les Reds, ils étaient bons là, à l'époque, là, quand même.
Que, non, les Reds, je pense qu'il y avait plus de chances de gagner une série mondiale avec les Mariners, la série 2001 contre les Yankees, qui était désastreuse.
Mais c'est surtout que les Angels n'ont pas fait les séries éliminatoires depuis, genre quoi,
les Angels?
Ouais,
2014. Ouais. Contre les Orioles de Baltimore.
Ça fait déjà quand même 6 ans.
Les Mariners.
Non, mais je veux pas comparer.
Mais je comprends,
c'est un excellent club de base.
De grands joueurs exceptionnels comme Mike Trout, on n'en parle pas. Il pourrait tellement aider d'autres équipes aussi qui aspirent les grands honneurs. C'est ça, les joueurs qui lancent et qui frappent, c'était pas rare avant, en fait, là, des années vers la fin 1800. Donc, il y en avait beaucoup, dont Albert Spalding. Il fait 54 victoires, 5 défaites, puis un average de 312. Donc, c'est quand même pas pire. Et c'est plus dans les années 1900 qu'on spécialise davantage, surtout avant le repêchage, dans le fond. On va choisir.
On est à l'époque de la balle, du dead ball baseball, là, qui est vraiment les grosses années des lanceurs. Mm-hmm. Ils ont dû reculer le marbre, reculer le monticule pour justement parce qu'il y avait trop de halt. C'était plus un sport watchable. Regardable.
On a ajusté ça, en effet. Et il y a d'autres joueurs de ce temps-là qui aussi frappent et lancent. Entre autres, en ce moment, il y a Matt Davidson avec les Rangers. Sinon, avec une espoir des Rays, Brandon McKay, qu'on a beaucoup entendu parler. Lui, il est meilleur frappeur, meilleur lanceur, en fait. Meilleures statistiques lanceur.
Par contre, on l'a vu l'an passé un petit peu avec les Rays et il s'est fait ouvrir. Les valves étaient ouvertes lorsqu'on frappait contre Brandon McKay. Après, je pense qu'il peut jouer au premier but aussi, donc à suivre, je pense que lui aussi pourrait faire la transition entre les deux.
Ouais, avec ça, c'est du moins pour ses statistiques dans les ligues mineures.
Pis c'est encore un jeune espoir, là, McKay.
Ouais, mais c'est vrai que l'an passé, il l'avait pas eu facile. Et un grand nom, c'est Michael Lorenzen avec les Reds de Cincinnati. M'a beaucoup impressionné. On l'utilise en fin de match comme pinch hitter.
Oui, exact. Il y a Anthony Scalfani aussi des Giants de San Francisco qui est utilisé comme frappeur à la fin des matchs. Ah, donc, c'est un lanceur partant, là. Mais lui, il frappe tellement bien, mieux que tous les autres frappeurs de choix de l'équipe.
Ouais, puis ils sont impressionnants à voir. Lorenzen, je repense à un Grand Slam qu'il avait fait.
Matt Bum pourrait faire ça.
Matt Bum pourrait pas être bon.
Zach Greinke aussi.
Herman Marquez aussi.
Herman Marquez pourrait faire ça.
Surtout en ce moment, quand on pense au baseball, c'est un des sports où les roster spots, si je peux dire, les places dans l'alignement sont plus restreintes. Donc, quand tu as un joueur qui peut faire les deux, tu limites quand même des joueurs ou de la place sur l'alignement. Et c'est ce qui fait le tour un peu de la future légende.
Est-ce que je peux faire un mini aparté? On parlait de Otani qui est vraiment un freak de la nature, que c'est plus grand que nature. Le prochain, selon moi, freak de la nature est présentement dans la relève des Yankees de New York. Il est surnommé l'Alien, il a 18 ans. Il vient de la République dominicaine. Jason Dominguez. 18 ans, il est musclé, il frappe des balles. Tu entends sa balle qui est frappée. Personnellement, allez voir ses vidéos. Il n'a pas encore affronté une balle, malheureusement, d'un joueur professionnel, mais c'est un Freak de la nature.
Tu penses quoi de Wander Franco du côté des Rays, qui est le meilleur espoir du baseball majeur?
Selon moi, ça ferait longtemps qu'il aurait dû avoir son spot. Il aurait dû commencer l'année passée.
Ben ouais, moi je pense qu'il aurait. Je pensais qu'il allait avoir une place dans l'alignement cette année, surtout à l'arrêt court. Ouais. Je pense que Willy Adames, tu sais. C'est un bon joueur défensivement, là, Willy Adames, il faut lui donner, sauf qu'il frappe pas pantoute.
Ben moi, j'aime bien, qu'est-ce que j'ai retrouvé récemment, c'est qu'il y a trois. Dans la famille Wendell Franco, sont trois Wendell Franco.
T'es-tu sérieux?
Oui. Il pense que c'est peut-être un arnaque parce que le père, il disait: OK, je vais tout appeler mes enfants Wendell Franco. Le plus vieux va avoir le certificat de naissance du plus jeune, comme ça, il va pouvoir être dans. C'est magnifique. Les trois s'appellent Wendell Franco.
Wendell Franco. Impossible. Donc, un nom à retenir en
plus. Je pense que c'est des Wendell Franco Juniors. Ça, le père s'appelle Wendell Franco.
En ce moment, c'est de show.
On s'entend. Je le répète encore là, cette semaine, si vous voulez regarder un match de baseball, c'est les Angels qu'il faut regarder. Ouais. Pour le spectacle.
Yeah. Il était supposé lancer hier, mais là, on a reporté son prochain départ un peu plus tard cette semaine.
Yes. Hey, les garçons, mettez vos chapeaux de joueurs fantaisistes. De joueur de pool, de hockey.
C'est un joueur
baseball,
de fantasy.
Tout un joueur de fantasy. Tu fais des simagrées de toute façon à chaque émission.
Oui.
Donc,
la chose devrait être filmée.
On se met dans une optique de fantasy baseball, hein? Donc, ligue simulée, si on veut.
Oui.
Disons les termes français comme ils se doivent. Donc, les gars, on a fait un petit jeu la semaine. Là, il y a deux semaines, oui. Alors que Pierre était là.
Oui.
Du start, sit and drop. Donc, quel lanceur vous habillez, que vous laissez dans votre alignement? Quel joueur que vous mettez sur votre banc?
On
et quel
dit
joueur que vous.
Parti. Assis ou laissé de côté.
C'est ça, mais j'allais le dire. Je suis en train de le dire. Tu me coupes assis tout le temps.
Hey, je le sais, mais c'est pour le français. Et le français.
J'y allais. Je le traduisais.
Je suis le Gab de ce show.
C'est ça, exact. mais tu parles très mal.
Donc,
pas grave.
Hey!
OK, d'accord. Donc, start, sit and drop. Les garçons,
oui.
Je commence. Alex Wood, lanceur gaucher des Giants de San Francisco. Son prochain départ est ce soir dans le programme double contre les Rockies du Colorado au Coors Field. Donc,
bien, on
à Colorado. Tu le fais partir.
Ouais.
Il a un très bon début de saison.
Trois victoires, je pense.
Trois victoires, il a donné deux points. Sa sortie la plus laborieuse, il a donné deux points en sept manches.
Ouais, et quand on pense qu'il affronte aussi les Rockies du Colorado en ce moment, qui sont pas trop. Qui trouvent leur identité un peu.
Tout à fait. Fin important, Trevor Story.
Non, il va être là.
Il va jouer?
Il va jouer. Je le vois directement, okay, il est annoncé pour être. Il va partir ce soir.
OK, donc les deux matchs?
Les deux matchs, oui.
Ah ouais, OK. Bon,
je change pas mon choix. Mais okay. Ouais, les Rockies, surtout dans l'administration, il y a beaucoup de changements en ce moment. C'est un peu un moment douteux là, pour lâcher l'équipe, en tout cas du côté du general manager.
Ouais.
Moi je le pars.
Je le pars
début de saison.
Les Giants sont en feu. Là.
Les Giants vont quand même bien.
Ils vont bien. La victoire qu'ils ont eue ce dimanche dernier contre les Padres, ouais. C'est magnifique. Là.
Ils sont premiers encore, je crois.
Ils sont premiers. Oui, sont premiers dans la division S. On pensait que ça allait être un grand combat entre les Dodgers et les Padres. Ouais. Non, c'est les Giants qui sont premiers.
On est juste un mois aussi dans la saison.
Je ne vais pas partir en peur avec les Giants. Donc, toi, P.A., tu le laisses dans l'alignement aussi?
Oui, il va partir ce soir, c'est clair et certain.
Mais comme il est dans mon alignement, je l'ai laissé aussi. Donc, Alex Wood, c'est un gars que j'aime bien. Il a déjà été sur l'équipe d'étoiles aussi. Ben, c'est un ancien très bon lanceur maintenant qui refait sa carrière avec un club en reconstruction, les Giants. Zach Greinke, mon prochain nom sur la liste des Astros de Houston, le club des tricheurs. Évidemment, un as droitier qu'on connaît très bien depuis plusieurs années. Son prochain départ, c'est ce soir aussi au Yankee Stadium.
Vous entendez ça? Ça, c'est les bruits de poubelle qui vont être dans les estrades des Yankees. Premier match.
J'ai hâte de voir. Hein?
Premier match des Astros à New York. La foule new-yorkaise qui est réputée pour pas se fermer à gueule.
Ouais.
Ça va être magistral. Par contre, les Yankees. Colin, aussi. Coucou les Yankees. Coucou, la saison est commencée. Ouais. Il faut se réveiller.
Ouais.
Mais non, définitivement, moi, Zach Greinke, non, tu le passes ce soir, c'est clair et certain.
Oui, surtout contre les Yankees qui ne frappent pas en ce moment. Là.
Effectivement.
Littéralement.
C'est une catastrophe présentement comme début de saison. Ils vont peut-être se reprendre, mais définitivement, je le passe ce soir. Là.
Par contre, comme le Yankee Stadium est un stade pour enfants, c'est un carré de sable. Ballon au champ centre peut devenir un circuit de 3 points. Là,
c'est vrai, sauf que.
Donc, mais quand même.
Facteur important, Zach Greinke est un baveux.
Ouais.
À soir, contre la foule new-yorkaise, il va s'amuser comme un petit.
Je pense que oui.
Peut-être on va voir sa fameuse balle à 53 000 à l'heure.
Peut-être, j'aimerais vraiment ça.
Moi, je pense que c'est l'affrontement que je vais écouter ce soir, juste pour entendre la foule new-yorkaise huer.
Toujours dans l'entourage des Yankees, je parle de Corey Kluber. Donc. Lanceur droitier. Son prochain départ, c'est samedi 8 mai contre les Nationals. au Yankee Stadium, donc à New York. Corey Kluber, qui, ma foi, a eu une sortie étonnante là, la semaine dernière.
Très bonne, ouais.
Contre les Pirates, par contre, je pense. En tout cas, bref. En tout cas, faut pas non plus partir en peur avec Corey Kluber, mais quand même, c'est le Corey Kluber des bonnes années. Là. Il a goûté à la fontaine de jouvence en quelque part, je sais pas trop, là, mais Corey Kluber lance très bien ces temps-ci. Est-ce que vous le gardez dans votre alignement contre les Nationals?
Je le garde dans mon alignement jusqu'au temps qu'il va se ramasser dans la liste des blessés.
Ouais, ça se peut très bien. Surtout avec les Yankees, il y a une
surtout avec les Yankees et Corey Kluber qui est reconnu pour quand même se blesser assez facilement. Mais j'espère pour lui qu'il va continuer parce que c'est quand même un excellent lanceur selon moi. Mais oui, tu pars jusqu'au temps qu'il va se blesser éventuellement.
S'il peut éviter l'infirmerie, effectivement, oui. C'est un gars à avoir dans votre rotation. Toi, Joe, qu'est-ce que t'en fais, Corey Kluber?
Non, c'est sûr qu'à un os comme ça, tu dois le garder, tu dois le commencer. Là.
Ouais, ex-house, mettons.
Ouais, c'est clair. Là. Il me fait penser un peu à un style comme Dallas Geichel, un peu.
Jay Happ, ouais, ces gars-là. Là.
Mais on peut pas dénier le talent. Puis quand tu as ça dans ton alignement, tu le pars. Ouais.
Tout à fait. Yes. Mais moi, contre les Nationals, sans Juan Soto, je le fais partir aussi. Ouais. Juan Soto est blessé. Donc oui, contre les Nationals.
Les Nationals qui sont premiers aussi dans leur division.
Ça va pas mal, effectivement.
Surtout Trey Turner aussi qui fera bien.
Ouais, puis même sans un Patrick Corbin en forme, comme les Joe Ross de ce monde, là, les lanceurs partant de relève là, de deuxième ordre, leur plan B en général dans leur enclos et comme dans la rotation des partants, ça va super bien avec
puis Starling Castro aussi qui est pas si pire.
Ouais, c'est un gars que t'aimes bien.
Étonnant, mais quand même pas si pire.
Ouais, effectivement. Spencer Turnbull, c'est le prochain nom sur ma liste, les garçons, avec les Tigers de Détroit.
Bah, t'avoues qu'avec ça là, tu m'as eu un peu là, je le connaissais pas beaucoup. Donc je peux pas te dire nécessairement là, les Tigers en ce moment vu leur situation je crois qu'il est au top de leur rotation de lanceurs.
Ouais, à peu près. Mais avec Casey Mize, là, qui est comme leur espoir numéro un, puis Matthew Boyd.
Non, du côté de Détroit, on a besoin de ce qu'on a, là, je crois.
On n'a pas grand-chose.
Ouais. Non, c'est ça.
Mais Spencer Turnbull est une de leurs, sources de réjouissance cette année, si on veut. Grand lanceur droitier. Son prochain départ, c'est jeudi, le 6 mai, contre les Red Sox. Au Fenway Park.
Ouais.
Yo! À Boston.
Mais, comment dire? Je trouve que je pense que moi, je l'enlèverais mon alignement complètement. Parce que.
Tu le drops.
Je le drop complètement parce que c'est un bon joueur, mais présentement, habituellement dans les poules, c'est quoi? Il y a 12, 16 équipes. Mm-hmm. Il y a plein de lanceurs présentement qui ont plein de potentiel. Puis Spencer Turnbull, oui, c'est probablement un des meilleurs fiches chez Détroit, mais 4,5 d'ERA.
Ouais, c'est quand même élevé.
C'est très élevé. Ça fait mal. Et selon moi, contre Boston, ça va aller qu'à s'empirant. Donc, tu vas chercher quelqu'un d'autre.
Oui, d'après moi, les oreilles vont y sciller, là.
Oui.
À notre Spencer Turnbull.
Va chercher quelqu'un d'autre que Madison Bumgarner, que ça va bien.
Un Frankie Montas qui est disponible dans quelques ligues aussi.
Exactement. T'as d'autres, plein de choix que tu peux faire à la place de Spencer Turnbull. Le seul que je garderais peut-être chez Détroit, c'est Casey Mize, mais seulement à partir de juillet à août, quand il va se replacer. Ses tirs vont être un peu mieux cadrés, qu'il va avoir de l'expérience, qu'il va se sentir à l'aise.
Effectivement. Mais, effectivement. Ouais. Si vous avez de la place sur votre banc, c'est peut-être une bonne idée de garder Casey Mize en attendant. Par contre, là, il n'est pas encore assez mûr. Tu me l'as dit il y a quelques semaines.
Oui, je l'ai dit exactement quand tu l'avais.
Je l'ai essayé et j'ai écopé.
Exactement.
Effectivement. Donc voilà, Spencer Turnbull, moi, je le libère aussi. Hein? Allez, va.
Bye
Spencer.
Bye.
Allez, va. Dernier nom sur ma liste, les gars, Aaron Sanchez, qu'on a connu à Toronto il y a quelques années, donc grand lanceur droitier aussi. Son prochain départ, c'est dimanche le 9 mai contre les Padres. Rappelons-le, il joue pour le club de poubelle des Houston Astros. Aaron Sanchez, qu'est-ce que vous faites avec ça? Toi, PA.
Il joue prochainement contre San Diego.
Ouais, le prochain départ, c'est dimanche 9 mai contre les Padres à Houston, par contre.
Aaron Sanchez était à San Francisco.
Ouais.
Il a été changé. Oui, c'est vrai, excusez.
Oui,
je dis Houston, mais c'est son club
l'emporte. Houston, c'est genre le club poubelle.
Oui, c'est vrai, excusez. Ouais,
non, mais Aaron Sanchez, je dirais que. Je regardais, je l'avais pas encore vraiment officiellement vérifié que c'était quoi ses statistiques. Je regarde, oui, un bon départ, il y a un bon ERA, un bon whip. Mais contre les Padres, il y a eu un beau miracle ce dimanche, mais je pense pas que ça va se répéter, selon moi. Les Padres, c'est une question de temps avant qu'ils se réveillent. Puis selon moi, les prochaines équipes, watchez-vous les pantalons, ça va faire mal.
Moi aussi, je pense que là, les Padres ont eu un petit creux de vague en fin de semaine, mais ça va se replacer. Ce club-là a beaucoup trop de munitions pour stagner.
Mais surtout que surtout que c'est dans votre poule, il y a les victoires là-dedans, avec la blessure présentement de Mike Yastrzemski. Ouais. Je l'ai eu. Je l'ai eu.
Très fort. Très fort.
Sérieusement, ça, je crois que les Giants, ça va faire un peu plus mal cette semaine.
Oui, puis Longoria s'est calmé aussi. Ouais. Là, ça va. Je pense qu'éventuellement, les choses vont rentrer
dans le calmer. Il y a Buster Posey qui a eu une excellente semaine, mais malheureusement, je pense qu'il va plus avoir la saison qu'on reconnaît depuis une couple d'années.
Ben, en fait, moi, je pense que c'est une énigme, là, Buster Posey, considérant qu'il a pris du repos l'an passé. On s'entend qu'il a opté pour rester chez lui pendant la pandémie. Donc, moi, je le vois en énorme forme là, ces temps-ci. J'ai écouté quelques matchs, justement, des Giants contre les Padres, puis il est en forme. Il est en très grande forme. Même à son âge, je pense qu'il a presque 35 ans, Buster Posey. Mais je l'ai pris, justement, en tant que receveur.
Ouais, mais j'ai pour ça que je t'ai dit que je préférais moi présentement dans
les agents libres.
Les agents libres, Bonhart Tucker chez les Bonhart, Reds, qui est toujours à peu près disponible, c'est un bijou ce petit gars-là.
Ouais, il y a Omar Navarrez aussi.
Navarrez
aussi. Par contre, c'est blessé un petit peu.
Carson Kelly qui est toujours disponible une fois.
Ouais, ça dépend, ouais, mais quand même, effectivement. Il y a quelques bonnes options qui s'offrent à vous, surtout avec Austin Nola qui est avec les Padres là. Il devrait reprendre du service tranquillement aux côtés de Victor Caratini.
Et si ça vous tente d'être un peu plus aventureux, il va avoir Rossman qui va prendre Haile Rossman.
Ouais, un des bons espoirs.
Un des bons espoirs chez les Baltimore. Oui, ils ont présentement un excellent catcher, mais selon moi, en mois d'août, on devrait le voir apparaître. Peut-être comme frappeur désigné et comme catcher.
J'avoue, mais en fait, Pedro Severino aussi, le receveur numéro un de l'équipe, est utilisé comme frappeur désigné aussi à
l'occasion. Donc, selon moi, on devrait avoir un duo. Un tandem de ces deux joueurs-là, donc ça va être une bonne place. En plus, vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs que comme position de catcher.
À suivre, ajoutez ça à votre watch list, votre liste à surveiller, comme on dit. Yes. Toi, Joe, qu'est-ce que tu fais avec Aaron Sanchez, avec les Giants?
Ben, idem.
Longue parenthèse.
Idem, ouais, je suis d'accord. Connu. Au début, avec Toronto, il était super impressionnant là, dans les grosses années quand on a fait les séries.
Avec les Strowman et tout ça.
Oui, en plein ça. Bautista, Connor Sion. Ouais, mais depuis, une petite régression. Là, non, je vais le... l'asseoir, surtout quand c'est pas adresse.
Moi aussi, peut-être que je le garde dans mon alignement si je l'ai en ce moment, là, considérant qu'il faut ménager nos changements, mais je l'assois aussi contre les Padres qui sont une force de frappe indéniable.
Exact.
Yes. Hey, les garçons, c'est tout ce qu'on avait comme temps aujourd'hui pour conduire antisportive.
Exactement. Je veux juste faire un message pour une personne. Ouais. Je veux dire à mon prof de SIG présentement au cégep Limoilou, je m'en viens, je vais faire mon exposé oral, je m'en viens.
Oui, on a trouvé un petit local à PE après l'émission. On souligne aussi la